va aller le rejoindre tout de suite. Bruno Gervais, bon mercredi, bon matin.
Bon mercredi, salut la gang.
Comment tu vas?
Moi, ça va très bien, vous autres?
Ah, nous autres, on est en feu, là, sur le cannabis à côté, fait que nous autres, on a
les
du
pilules,
fun.
Une couple de pilules, là, ça va bien?
Ça va très, 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 très bien. Il faut juste, des fois, pas penser à quoi on passe à côté. Entre autres, tu sais, honnêtement, les voyages nous manquent. Hier, ma blonde me disait, il me semble on serait dû pour une petite virée à New York, là, on allait virer à New York. Ben, j'aimerais ça, aller voir les panneaux d'Alexis Lafrenière à New York. Donc, c'est ce qui nous rend ça un peu plus tough actuellement, mais sinon, écoute, on fait avec ce qui se passe, là.
Ben c'est bon, c'est ce qu'il faut. C'est de l'ajustement pour tout le monde, puis c'est cette capacité-là de s'ajuster. Steph, je sais que tu es capable de le faire. C'est tough, c'est de se concentrer sur ce qu'on peut faire, ce qu'on a, au lieu de ce qu'on peut pas faire. Mais c'est vrai que ça commence à être long, ça commence à être fatigant, ça commence à être irritant, puis on le sent, là, on le sent à travers le monde. Y a bien du monde là qui sont dans des situations difficiles. C'est un sacrifice qu'on fait, tout le monde, bien du monde font des sacrifices personnels au bien de tout le monde. Mais me dire que je suis d'accord avec toi, mais il est temps que ça finisse pour qu'on aille plus aller virer là à New York. J'irais pas ça.
Ben oui, toi, maudit chanceux, t'as vécu dans cette région-là, malgré que quand on vit dans à proximité d'une ville comme New York, mais qu'on joue au hockey, on a-tu le temps d'en profiter? Tu vivais dans quel coin? Comment ça se passait ta vie là-bas? Puis t'as été là-bas combien de temps?
Ben oui, j'étais là, j'étais avec l'organisation pendant 8 ans. J'étais à Long Island pendant un peu plus de 6 ans, puis j'ai adoré le coin. Oui, j'avais le temps de descendre à New York. J'étais à New York avant d'avoir une famille, fait que c'est certain que ça simplifiait les choses pour moi. Je restais sur le côté nord là, à Long Island, et il y avait une station de train à Manhasset qui prenait 25 minutes, puis t'étais en ville. C'est beaucoup plus facile d'y aller en train. Fait que ça arrivait souvent, j'avais beaucoup d'amis en ville. Je descendais souvent à New York prendre le train, puis aller vivre ce rythme-là, c'était spécial. J'ai tout le temps trippé à faire ça. Tu reviens un soir où, exemple, des fois on allait passer des fins de semaine, là, peu importe. Quand je revenais, ça fait du bien de retomber dans un beat de vie normal, de réaliser que t'as pas besoin de courir partout, puis t'as pas besoin d'aller super vite. Mais c'était trippant d'aller voir ce que New York, c'est. Il n'y a pas de limite à ce que tu peux imaginer, ce qui se donne, ce qui se fait là, ce qui se passe à New York. C'est du temps de repousser. C'est unique comme place. Puis moi, je trippais de vivre les deux, d'être à Long Island. C'était tranquille. Il y avait des super belles places. Les restaurants, c'était incroyable à Long Island aussi. Mais après ça, de temps en temps, je finissais ma pratique. Je me ramassais mon lunch, puis on descendait, on prenait le train, puis on allait passer l'après-midi à New York. Là, d'avoir cette proximité-là, de cette facilité-là de se rendre à New York, c'est incroyable. J'ai bien trippé là-dessus.
En même temps que tu veux vivre la ville, Bruno, les vétérans, ils mettent-tu en garde les jeunes, comme Lafrenière là, qui va arriver à New York? Là, et il y a quand même des dangers un peu, dans le sens que c'est une ville 24 sur 24, puis tu peux tomber dans des pièges vite, j'imagine?
Oui, exactement. C'est ça un peu partout, parce que tu regardes, oui. Il y a des marchés, il y a des gros marchés partout. Tu peux t'enfarger autant en Caroline, s'il faut, ou à Montréal, mais c'est sûr qu'il y a des endroits qui sont un peu plus faciles et tu vas être très sollicité.
Ouais.
Les bienfaits de New York, c'est quand t'es un joueur des Rangers, t'es pas au top de la liste.
Non.
Tu peux encore te promener, là. Il y avait Henrik Lundqvist qui se faisait reconnaître, mais il y a encore bien des gars des Rangers qui se promènent en ville, puis tu te fais moins reconnaître que c'était un joueur des Yankees ou un joueur des Giants, c'est certain. C'est les deux plus gros sports, là. C'est un peu plus facile de se cacher à travers la masse, mais...
Ouais,
oui,
mais attends un peu, là, je veux revenir sur ce que Curry disait. Donc, là, toi, tu dis les faits de ne pas se faire reconnaître, t'es moins à risque de tomber dans un piège qui te fait changer le focus de pourquoi t'es là.
Exact. Parce que quand tu te fais reconnaître, la personne connaît immédiatement ta situation.
Oui.
Puis, exemple, un Alexis Lafrenière ou un joueur des Rangers... Tu vois un jeune homme, tu le sais qu'il fait de l'argent. Donc, il y a des gens qui vont t'approcher, puis il y a des méchants bons vendeurs dans tous les domaines, puis ils n'ont peut-être pas les meilleures intentions pour toi. Puis quand tu es là, puis tu es un visage, tu représentes l'organisation, tu veux bien agir, des fois, tu es un peu trop poli, tu es trop gentil, tu laisses un peu trop les choses, puis tu réalises à un moment donné que tu es trop avancé là-dedans. à connaître du monde que tu ne devrais pas connaître, tu ne devrais pas côtoyer quand tu es concentré sur ta carrière de joueur de hockey professionnel. Ça, il y en a partout. Fait faut que tu fasses attention. Quand tu es d'une place que tu te fais reconnaître, tu es quasiment une cible sur le dos pour certaines personnes qui veulent soit l'argent ou être vu à côté de toi. Puis c'est peut-être pas la meilleure chose pour toi. Fait que pour Alexis Lafrenière ou un jeune joueur qui arrive dans ces milieux-là, c'est tout de suite de le mettre en contact avec des personnes de confiance. Puis il y en a tout ça. Puis oui, c'est normal, à un moment donné, ça va être tenté, d'exemple, d'aller prendre un verre quand ils vont pouvoir ou d'aller manger au restaurant. Ou... Et si tu es capable d'avoir des personnes de confiance, des places de confiance, des endroits que tu vas là, tu fais ta business, puis, tu vas manger, tu reviens, ça dégénère pas trop. Quand tu es là, tu gardes un certain contrôle.
Fait qu'à Montréal, à Montréal, c'est bien plus tough. Tout le monde se fait reconnaître, tout le monde connaît la face des joueurs. T'sais, je pense, mettons, à un jeune qui arrivait comme gardien de but superstar. il l'échappe en partant, ça peut être plus tough, là.
Oui, c'est vrai que ça peut être plus tough. Puis surtout qu'au Québec, on a ce côté-là où on est très chaleureux, hein? Mais on aime jaser, on aime accoster le monde, on aime aller leur parler, on aime interrompre certains soupers, on aime s'imposer. On a moins de cette espèce de tac-là de rester à l'extérieur. Fait que oui, ça peut être un peu plus difficile. Et pour quelqu'un qui est dans l'œil du public, il suffit d'un événement, d'une soirée que ça te tente pas, ça te tente moins, t'es fâché, t'es frustré, t'as une mauvaise journée, puis ta réaction va avoir un gros impact, puis là, tu viens de faire ta réputation d'une façon quand c'est pas vrai, c'est pas ça. Fait que de tout le temps faire attention, de tout le temps marcher sur des œufs, ça peut être épuisant pour certains. Puis des fois, t'es ciblé par du monde qui peut venir déranger ta vie, dans le fond, à toutes sortes de niveaux. Fait que c'est ça qui devient dangereux. Fait que tu deviens tu deviens un peu pas inquiet, là, je dirais, mais tu fais attention à tes autres choses, puis tu vas pas essayer de laisser tout le monde, là, tu te laisseras pas avoir par le fait que quelqu'un vient de parler. Fait que des fois, tu vas te bloquer, tu vas être refermé sur toi-même, tu vas même avoir un peu l'air bête, puis c'est pas méchant, mais tu essaies juste de te protéger, puis c'est difficile pour ces jeunes-là de savoir comment le faire, de savoir comment diriger la conversation pour être capable de te protéger, puis être capable de garder ça droit, puis qu'il n'y ait pas de conflit. Quand la personne est un peu trop, elle incite un peu trop, elle veut pousser un peu les choses, mais il y a certains jeunes qui, ben, ils veulent pas être méchants, ils veulent être gentils, il faut que je fasse attention, puis c'est là que tu te laisses embarquer. Fait que c'est dur d'être capable de faire non, gars, ma ligne est là, arrête, là, c'est fini, merci, bonsoir, tout en restant poli. C'est comme une gifle où faut que tu sois capable de donner une gifle au visage avec un gant blanc à certains moments pour être capable de te garder, de te protéger, puis de garder, mettons, ta concentration à bonne place.
Comment on fait maintenant, comme là, toi, tu arrives à Long Island, tu t'installes là, puis je trouve encore cette année, là, Ray nous parlait de signature de contrat, puis tu sais, il y a quand même plusieurs joueurs qui ont signé à 700 000 $ mais il y en a là-dedans qui ont connu des grosses années. Comment vous faites pour vous installer, tout le monde, quoi, dans le même quartier? La moyenne des salaires dans la Ligue nationale, ça ressemble à quoi? On dirait 2-3 millions? Plutôt si on fait une moyenne. Fait que le gars qui rentre à 700 000, lui, puis qu'il y en a évidemment à 10 millions dans l'équipe, comment on fait pour tout rester à la même place? Le niveau de vie, les soutes, le char, ça doit être tough à suivre à un certain niveau?
Oui, c'est pas évident à suivre. La meilleure affaire, c'est de pas embarquer dans cette espèce de monde-là trop rapidement. Surtout à tes débuts, là, ça sert à rien d'investir sur le gros char ou sur la grosse maison, toutes ces affaires-là. Il y a bien des façons de faire. Tu vois, moi, quand je suis arrivé à Long-Island, je suis parti professionnel, j'avais un Dodge Shadow 93, puis j'ai gardé le plus longtemps possible. Je voulais pas. J'ai été chanceux. Mon père, c'est la première fois qu'il me dit, quand j'ai reçu mon chèque de bonnet de signature, c'est quand même un gros montant. Puis la manière que c'était structuré.
C'était combien, mettons, à peu près?
Mon bonnet de signature, c'était de 175 000.
Okay.
Mais c'était divisé sur les années de mon contrat. Fait que j'ai reçu la journée de ma fête, j'ai signé mon contrat, j'ai 19 ans. Puis quelques semaines plus tard, je reçois 50 000 $ un chèque, tu sais, direct sur ça, 50 000. À 19 ans, t'es pas supposé avoir un chèque comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Puis mon père m'avait regardé et dit, ton premier chèque, là, on va l'investir. T'en as pas besoin. Fait qu'on va apprendre, là, c'est quoi l'investissement. Okay. Et on va le placer. Tu vas voir ce que ça fait. Puis apprendre à le connaître là-dessus. Puis il avait raison. Puis j'ai été chanceux de l'écouter. Mais moi, j'ai gardé ma Dodge Shadow 93 qui faisait la job, qui m'amenait du point A au point B. Puis après ça, je disais, je vais investir ça. D'y aller de ce côté-là, mais c'est vrai que tu peux te perdre rapidement. Puis nous autres, à New York, dans mes premières années, j'étais le seul jeune joueur, le seul célibataire au début quand je suis arrivé là. Fait que tout le monde avait des maisons, était installé, les familles. Puis tranquillement, il y a eu du renouveau à New York. Puis il y avait bien des jeunes. Fait que oui, on vivait dans des complexes que tu rentrais, tu peux louer des appartements. Parce que le but, tu veux pas t'acheter une maison. Fait que tu veux louer, mais essayer de trouver des places que tu peux louer puis t'en aller l'été, c'est un peu plus compliqué. C'est plus limité comme choix. Fait qu'on vivait dans un complexe. On était 7-8 gars à vivre là. On a fait ça une couple d'années. Il y a une année que on a loué une grosse maison. Pis on avait 5 chambres dans la maison. Fait que dans la maison, il y avait Carlo Pozzo, Nate Thompson, Josh Bailey puis Tim Jackman qui vivaient avec moi. On était les 5. On l'appelait la Frat House. Thompson avait son gros chien qui venait, son gros labrador qui venait avec nous. C'était notre gang. Fait que les parties d'équipe se faisaient là quand c'était le temps. Mais c'était une façon de faire où on diminuait les coûts parce que c'est de la location, tu sais, et on pouvait s'en aller quand c'était l'été. Mais
de vivre les cinq au même endroit, est-ce que ça vous rendait plus festif parce que un soir, ça nous tente un peu plus? Ou au contraire, il y avait tout le temps, vous savez, les boys, on joue demain? C'était positif ou des fois, c'était plus facile de l'échapper?
C'était des deux bords, mais oui, c'était plus facile de l'échapper parce que ça arrivait souvent, il y en a tout le temps un qui proposait « Hey, pourquoi pas? Hey, ah ouais. » Donc, quand tu vis tout seul ou tu vis juste avec un autre gars, tu vas être plus porté à aller à la cuisine, faire le repas, etc. Mais là, on était une gang, il y en a tout le temps un qui disait « Hey, on devrait aller là, hey, on devrait aller là. » Puis là, t'as l'effet de groupe d'y aller. Fait que oui, ça l'amenait peut-être un côté un peu plus festif, mais on était chanceux. On était quand même, on avait Josh Bailey qui était très jeune à l'époque. C'était des jeunes joueurs, puis c'était pas des gars tout le temps ça go. On était tous un peu pareils là-dessus. Il y avait des moments que c'était la lumière verte, puis tant mieux, on s'amusait, mais il y avait des moments pour être sérieux. Fait que c'était capable de faire le choix entre les deux. Puis pour ça, ça a été bon quand même. Ça a pas été complètement de fou cette année-là. Ça a été très plaisant, bien du plaisir. On était capable de faire le bal en ville.
OK, mais là, il faut que les cinq gars jouent. Tu sais, mettons, j'essaie de me... Mettons qu'il y en a un des cinq qui est pas habillé, là. Il est pas blessé, il est pas habillé, là. Parce qu'il est d'une mauvaise passe. Puis les quatre autres jouent, puis l'équipe gagne. Ça doit être tough de cohabiter parce que toi, tu veux rien que jouer, puis t'es en maudit, peut-être, d'être laissé de côté. Ça, c'était pouvait-tu être un inconvénient?
Non, mais ça faisait partie des choses. Et dans une équipe, tu vas le vivre, ça. Tu le vis à tous les jours, peu importe, puis t'es des chums, puis tu comprends la situation, puis t'essaies juste de l'encourager. Puis oui, ça arrivait, il y a des gars qui étaient blessés, qui revenaient de blessures, c'était un peu plus long. Il y a des gars qui jouaient moins, il y a des gars qui étaient scratch. Ça fait partie de ça. Fait qu'on essaie de s'encourager. Puis des fois, le gars qui joue pas, mais lui, il faut qu'il soit à l'aréna un peu plus tôt. Fait que pendant que les autres ont congé ou ils se lèvent un peu plus tard, lui, il faut qu'il se lève. Fait que, t'sais, de temps en temps, ça arrivait, mettons, Jackman jouait pas, puis là, il fallait qu'il se rende à l'aréna plus tôt. Il disait, hey, c'est du quoi, demain, je vais y aller avec toi, tu sais, que tu seras pas tout seul, on va aller déjeuner, puis on va aller à l'aréna ensemble. C'est des choses comme ça, parce que tu restes une équipe, puis ça arrive, ça, dans l'équipe, il y en a tout le temps qui sont scratch, qui vont vivre ça, puis c'est pas parce que le gars, il est scratch, qu'il peut pas être ton ami, tu sais, fait que tu restes proche de lui, puis t'essaies de l'encourager là-dedans, puis on essaie de supporter, puis même que je te dirais que ça l'aidait, le gars qui vit, au lieu d'être seul, puis de brouiller du noir, puis revenir à la maison, puis d'être un peu déprimé, il revenait, puis t'avais quatre autres gars autour de lui qui l'encourageaient, puis qui l'aidaient, puis hey, tu vas revenir, ça va bien aller, puis hey, on va à l'aréna avec toi, puis que dans pratique, il scorait un but, ben on criait pour lui, pour juste que tout le monde remarque qu'il venait de scorer. Hey, il est bon, il vient de scorer, même si c'est dans pratique, pour essayer de rendre ça intéressant, de rendre ça plaisant, on en prenait fierté d'essayer de remonter un gars qui était à terre.
Est-ce que quand on est dans la patente, là, à quel moment on décide de dire on va s'établir d'une ville pis on va y rester avec nos familles? Moi, je trouve ça très cool, là, comme toi t'es revenu, tu sais, Max est venu s'installer également au Québec. Ici à Québec, il y a quand même plusieurs une vingtaine, hein, plus d'une vingtaine qui sont installés à Lac-Beauport ou un peu ailleurs. Mais il y a des joueurs quand même qui décident de rester, de s'installer dans la ville. Quand je suis allé à Denver chez Michel Goulet, tu sais, ils sont quand même plusieurs joueurs s'est installé à Denver.
Vincent Le Cavalier est resté en Floride, je pense, qui est encore à Tampa, il me semble.
Oui.
Fait que comment tu venu à l'idée à un moment de dire hey, on va s'installer pour de bon à Long Island avec la famille ou c'était certain que vous allez revenir vivre au Québec?
Bien, les chances de revenir vivre au Québec étaient très grandes pour moi parce que de base, puis souvent dans ces décisions-là, ça dépend de la demoiselle, ça dépend de l'autre moitié de ta vie qui embarque. Souvent, tu vas te rapprocher de là. Moi, à mes yeux, dans ma tête, c'était fait. Je le savais que j'allais marier une Québécoise. Et moi, c'était important pour moi, une Québécoise. J'avais trop d'histoires, des belles histoires pendant que tu fais ta carrière de hockey. Mais quand tu arrêtes à la fin, justement, de prendre cette décision-là, de où t'établir, puis là, il y a trop de différences dans tout ça. Puis je voyais beaucoup de couples exploser après la carrière de hockey avec ces critères-là. Fait que là, moi, dans ma tête, c'était je vais marier une Québécoise. Puis je sais qu'on va avoir un point en commun, puis on va être capable de faire une très belle vie après, parce que t'en reste beaucoup plus après que la longueur de ta carrière. Mm-hmm. Fait que moi, c'était très important pour ça. Puis c'est sûr qu'il y a des villes qui sont un peu plus intéressantes à s'établir. Vincent, en Floride, c'est pas plate de s'établir là. Il y a des villes, mettons, là, avoir joué à Buffalo longtemps, je sais pas si tu restes là ou tu reviens, peu importe. Mais moi, c'est Berlin. J'ai failli rester. Moi, j'étais parti, puis quand je suis tombé en amour avec Berlin en Allemagne, puis je me serais établi là, ça, sans problème, c'est quelque chose que je voulais faire. Mais souvent, c'est quand tu restes longtemps dans une ville. Comme moi, j'ai trippé sur Philadelphie ou j'ai trippé sur Tampa Bay, mais j'étais là un an. Quand tu es capable de rester là longtemps ou que tu es capable de t'établir puis d'avoir des relations à l'extérieur de l'équipe, de te faire des amis à l'extérieur, d'avoir des relations pour ce qui est des opportunités, de faire quelque chose après, que tu te retrouves pas tout seul quand tu n'as plus rapport avec l'équipe, ben là, tu peux t'implanter puis t'enraciner dans une ville. Les gars qui sont là longtemps à une place, tombent en amour, qui voient des opportunités, qui sont à un stade dans leur vie, qui comprennent ce qui se passe, puis qui sont capables de regarder passer l'équipe et voir ce qu'il y a autre chose autour, des intérêts, des choses que je vais pouvoir faire, ben là, ça devient intéressant de pouvoir t'établir, parce que la dernière affaire que tu veux, de te retrouver dans une ville, que là, tu n'as plus rapport avec l'équipe. Fait que là, tu réalises que j'ai plus de points communs, j'ai rien ici. Là, ça devient beaucoup plus difficile.
Puis en Europe, je trouve, j'entends ça plus souvent. Les gars, ils s'établiraient là. Puis Brent Aubin, là, ça fait une douzaine d'années. Puis là, Charles Hudon vient de partir en Europe. Moi, je serais pas surpris qu'il fasse une belle carrière. Puis le rythme de vie est moins stressant un peu en Europe aussi pour les hockeyeurs, Bruno, je pense. Hein?
Beaucoup moins stressant. Il y a certaines ligues comme Charles Hudon est en Suisse. Oui. Il y a beaucoup de pression sur les importés. Si tu produis, tu fais des points, ils vont t'adorer. Ça, il n'y a pas de problème. Mais oui, le rythme de vie est beaucoup moins difficile. Le voyagement, la qualité de vie est exceptionnelle. La température, les places en Suisse, juste de se promener en Suisse, c'est incroyable. Mais moi, j'étais tombé en amour avec leur mentalité en Allemagne, leur mentalité, leur culture. J'avais adoré ça. Cette espèce de
Oktoberfest,
ça l'aidait, c'est un gros plus, mettons. Ça, j'ai adoré ça. Mais surtout, la façon qu'ils vont... ils traitent tout le monde en adulte. La grosse différence, mettons, je veux te résumer ça, là, on pourrait en parler longtemps, mais en Allemagne, ils traitent tout le monde en adulte. C'est pas... On va pas faire un règlement où tout se rabaisser pour le plus épais de la gang parce que lui il pensera pas, puis lui, il fera pas. En Allemagne, si t'es pas capable de penser, d'avoir du bon sens, ben c'est de ta faute, puis c'est toi qui vas se faire taper ses doigts, on n'ira pas punir le reste de la population pour ça. C'est une genre de mentalité que tu revois partout, puis même avec les enfants, il y a un peu, là, au lieu d'être sur l'enfant complètement, il laisse vivre les expériences dans une très belle structure, très bien encadrée, puis il laisse apprendre à leur façon. Fait qu'il y a un côté comme ça là, qui est bien différent du Québec, que moi, je tripais sur cette mentalité-là, un peu plus relaxe. Dans un sens, et de se faire confiance à notre bon sens. Si ça fait de l'allure, ce que tu penses, si tu réfléchis, là, ça fait de l'allure, ben, tu vas être capable de le faire en Allemagne. Comparativement ici, il y a tellement de règlements, de structures, de ci, de ça, tu peux pas faire ci, ça, 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 à cause qu'à un moment donné, il y en a un épais qui le fait. C'était la différence de mentalité que moi, je me faisais triper pas mal.
Bon, ben très cool, Bruno. Bien content de t'avoir jasé ce matin. Puis ce que je retiens de notre discussion, c'est que toi, comme, mettons, ta blonde, t'as pas pris la plus haute, mais t'as pris celle qui allait t'offrir plus longtemps, c'est ça?
J'ai pris la plus haute qu'elle aime t'offrir très longtemps.
Non, ok.
T'as le droit de l'envoyer premier, bien, là.
Oui. Ah ouais, là, Steph, là, attention, elle t'écoute, là. Tu commences à avoir des fans, ça, dans Montréal, là. Elle t'écoute, là. Attention à ce que tu dis.
Bon, ben, justement, la semaine prochaine, on parle des plots à Poc. Ça existe-tu pour moi? Bon. Ah,
On dit à micro. Ceux-là, les micros, les animateurs de shows de radio, pareil.
Ah, ça, c'est incroyable. OK. Hey, ben, tu m'as vraiment donné le goût d'aller en Allemagne. Puis là, j'en reviens pas de la manière que tu m'as expliqué la mentalité des Allemands. Crime, ça me donnerait le goût quasiment d'aller voir ça, puis d'en comprendre un peu plus, puis d'essayer d'importer ça. Parce que c'est un discours que j'ai eu il n'y a pas longtemps qu'il y a trop de règlements. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui arrive, on met un règlement pour plus que ça arrive. Alors, j'ai de la misère à conduire mon char et à décider moi-même si je peux tourner quelque part. Fait que je trouve ça un petit peu encombrant.
Mais qu'on puisse voyager, là, je vais t'amener triper à Berlin, tu vas voir, ça va changer ta vie.
Ah ouais, avec Krim, je vais le faire, c'est sûr.
Dis-nous donc bonjour en allemand, là, avant qu'on se laisse. Là.
Ah, ben encore mieux que ça, on va vous dire. Ich möchte ein Weiss Bier, bitte.
C'est que je suis sexy, ça?
Non. Ça, c'est que j'aimerais une bonne bière blanche, s'il vous plaît.
Ah!
Donnez ça, c'est ce que ça vous prend. Ça va en Allemagne, c'est correct.
C'est parfait. Merci, mon ami Bruno. Très intéressant, encore une fois.
À bientôt.
Au revoir. Bruno Gervais, notre chroniqueur de hockey.
Ça, c'est parce que je suis sexy.
Non, mais j'ai essayé de traduire. Moi, j'ai essayé d'écouter puis de traduire.
On a Nancy sur la 2 qui veut te parler.
Un gros chauve, pas de cheveux.
C'est ça, elle disait que t'étais sexy.
C'était Nancy, ça. Nancy.
Alors, c'était la chronique hockey qui nous a fait voyager un peu partout. On revient dans un instant. Vous êtes dans Dupont le matin.